Le jour où on m'a dit, il va falloir faire tout seul.
C'est l'équipe d'Imaginaire en force dans le studio de Radio G, avec à ma gauche Sébastien.
Bonsoir.
Pierre-Marie.
Bonsoir.
Karine.
Bonsoir.
Et puis on a deux invités, deux écrivains.
Non.
Et si.
Bonsoir.
Benoît Patrice.
Bonsoir.
Qui vient cette fois pour la promotion de Charme Noir. Recueil de micro-nouvelles aux éditions de L'Abat-Jour.
C'est cela.
On t'avait déjà reçu dans cette émission ou pas pour Hôtel Silencio?
Oui, c'est ça, à peu près un peu moins de deux ans. De
ouais. En septembre 2020.
Ton roman à portée à clé.
C'est cela.
Et puis Vincent Dionisio, c'est la première fois que tu viens.
Non, c'est la deuxième fois, mais je te remercie de t'en souvenir.
Ça nous avait marqué, dis donc.
Ouais, effectivement.
Toi, t'as deux nouveautés.
Bah, ouais. C'est ça, deuxième fois pour deux nouveautés. Je trouve que c'est pas mal.
T'as vu?
La prochaine fois, j'irai avec trois.
Il y a Kiyuk aux éditions de
Kiyuk.
Kiyuk, ah bon, ouais. Ça commence. Aux éditions Rivière Blanche, roman de science-fiction. Et puis, t'as aussi un. J'ai dit un thriller sur Facebook, mais est-ce que.
C'est un thriller.
C'est un thriller.
C'est même un hard-boiler futuriste.
Waouh.
J'aime bien. Eh, n'est-ce pas?
Bon, donne-nous le titre déjà.
Requiem pour une citrouille, contrairement à ce que son nom l'indique, c'est vraiment un hard-boiler.
Aux éditions Inceptio, chez lesquelles
oui,
tu avais
ça,
déjà
parce
publié.
Parce que Vincent est extrêmement. Fidèle.
Ah bah oui,
pour cette maison d'édition, et que comme il le met dans sa petite dédicace, c'est un peu la seule manière que les visiteurs, les lecteurs sachent où il est et lui donnent un petit bifton de 50 euros quand même.
Absolument. Ouais. Et on vous recevra tous les deux au Salon Imaginaire qui se tiendra dans 10 jours au Salon Kurmanski. Donc samedi 14, dimanche 15 mai.
Et ça sera l'occasion pour, au moins pour Vincent, mais j'ai un doute pour toi, pour une nouveauté, puisque Vincent nous sort une nouvelle dans l'anthologie.
Et Benoît, non. Il en avait écrit une dans celle de l'année dernière. On en reparlera peut-être.
L'anthologie, en moins d'un an, ça reste une nouveauté quand même, la nouvelle.
Bien rattrapé. Tout à fait.
Je fais des efforts, je rame.
Mais alors, tu rames depuis la Bretagne, Pierre-Marie? T'étais à Rennes ce week-end
Alors voilà, la grande question. Est-ce que Rennes est dans la Bretagne? Le doute est permis. Hein, est-ce que Nantes est dans la Bretagne?
En tout cas, j'ai vu les photos, le ciel était bien grillant.
C'était contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'était pas une journée, c'était pas un week-end breton. Il a pas plu une seule fois. J'étais extrêmement déçu. Oui, il a plu une seule fois la nuit à minuit passé.
Non.
On l'a pas vu.
Mais les stands étaient fermés quand même, rassurez-moi.
Pardon?
Les stands étaient fermés. Quoi qu'il y avait du jeu de rôle dans la nuit, non?
Oui.
Samedi soir.
Jeu de rôle et soirée loup-garou. Donc, c'est un nouveau salon qui s'est tenu là pour sa première édition à Rennes, en partenariat avec l'Université de Rennes, puisqu'ils ont un UFR spécialisé dans la recherche sur la littérature de l'imaginaire et ses implications.
Ah ouais, quand même.
Donc, avec une forte intensité scolaire, puisque ce sont 60 classes qui se sont déplacées les jeudis et les vendredis, et un tiers des visiteurs totaux étaient des étudiants en lien avec leurs études. Mmh. Ils ont fait un appel à texte pour des nouvelles collégiens et lycéens et ils ont reçu à peu près 500 nouvelles, toutes classes confondues. En sélectionner 6 pour des prix était assez ardu d'après ce que j'ai compris.
Il y avait un thème ?
Il y avait un thème, tout à fait. La connectique, les connexions entre les personnes. Donc, mais toutes les nouvelles sont disponibles sur le site de, je ne sais plus lequel, mais je vous laisserai le retrouver sur le site de West Hurlant, qui l'a mis en avant. Je suis désolé, il y a eu tellement de noms qui ont été prononcés, genre des maisons d'édition, noms imprononçables, Inceptio, Inception, on ne sait pas trop. Petite maison d'édition angevine.
Ah bon, première nouvelle. En plus, ils nous écoutent. Coucou, des bisous. Enfin,
j'espère que pas trop non plus. On a un deal avec eux qui s'est fait pendant le West Hurlant à base d'échanges de bonbons, de bières, puisque l'alcool était interdit dans une ville bretonne. Je peux vous dire que ça a été un petit peu un crime.
D'où la rue de la soif là-bas, peut-être.
L'alcool était interdit ou juste ils vendaient pas d'alcool sur place?
L'alcool était interdit sur l'événement.
Alors, je vais pas balancer. Ah ouais, il y a des éditeurs qui se sont mis hors la loi.
On va fermer les yeux. Non. Comme c'était un événement co-organisé par le milieu scolaire, interdiction à l'alcool normalement.
Alors, ok. Bon, et sur ce, je vous propose un petit blind test avant l'interview de Benoît. Vous avez au casque, les gars. En plus, Vincent, c'est un super spécialiste des blind tests. Tu nous avais
organisé... Mais seulement pour les musiques pourries.
Il nous avait fait un quiz quand même à la bibliothèque à une époque. Ouais. C'était sur le thème des araignées, si je me rappelle bien.
Exactement.
Pour une nuit de la lecture. Et donc, c'est assez dur. Hein. Mais allez, je laisse un peu les micros quelques secondes. Je pense que vous n'arriverez pas à reconnaître. L'ambiance peut-être.
Qui bonne censure.
Thank you. bravo à Sébastien qui a reconnu la voix de David Lynch. Fallait le faire quand même. Un 45 tours qui vient de sortir sur le label new-yorkais Sacred Bones, mais avec, qui reprend deux morceaux qui avaient été faits en 2005. Pourquoi David Lynch s'amuse avec cette voix un peu accélérée? Je crois qu'il avait utilisé un appareil pour faire des bruitages sur Inland Empire, il me semble. Et ça l'avait bien... je sais pas, ça lui avait plu du coup.
Mais les bruitages, il adore ça.
Il a fait quelques chansons comme ça avec cette voix. Je ne sais même pas quelle voix il a d'habitude. Bon, pourquoi j'ai pris David Lynch aussi? Je sais pas, Benoît, tes univers me font penser... comment je dirais, à l'univers fantastique, un peu surréaliste aussi.
Le cas dans Hôtel Silencieux, oui, l'onirisme de David Lynch.
Oui, un peu ça.
Alors donc, ce recueil de micro-nouvelles Charme Noir aux éditions de L'Abat-Jour. T'es fidèle aussi à ton éditeur, toi?
Oui, j'aime bien, je suis toujours fidèle. Hein, toujours. Et alors, pas que je veux dire, c'est pas des micro-nouvelles, c'est plutôt vraiment des fictions soudaines.
Ah,
dans
bon.
Le genre de la littérature courte, comme ça, il y a... Ouais, la micro-nouvelle, c'est plutôt quelques mots, une demi-page,
ah oui,
on dira.
D'accord.
Ensuite, il y a la nouvelle brève qui fera, mettons, une page, hein, je fais ça un peu au milieu. Ensuite, il y a la nouvelle courte qui fait plutôt une page et demie ou deux. Et la fiction soudaine, c'est un peu le plus long, en fait, dans le genre, qui fait à peu près trois pages.
Ouais, trois, quatre pages, là, ouais, dans ce recueil, ouais.
Et donc, pour ce recueil, on a bien 50 nouvelles. Et c'est ta nouveauté donc, qui est sortie en 2022. Et cet ouvrage est donc proposé par les éditions bordelaises de L'Abat-Jour. J'ai rappelé aussi Hôtel Silencieux, qui est ton premier ouvrage sorti donc, aux éditions de L'Abat-Jour en 2020. Donc, qui est aussi composé de nouvelles et sous la forme d'un original livre-jeu. Et entre ces deux parutions, donc, il y a eu la sortie de Nirvana dans l'anthologie angevine imaginaire, donc Orient Extrême. Et Romain, donc peut-être que je vais te l'apprendre, il y a également des nouvelles en ligne inédites sur le site de L'Abat-Jour, donc signées par Benoît Patrice,
oui,
dont La machine à laver les gens,
un type
de fiction d'ailleurs qu'on pourrait dire soudaine, que j'ai trouvé drôlatique,
oui.
Et de l'humour plutôt noir, il y en a de présent dans Charme Noir. Donc, la rime est facile, mais bon... Et donc, page de titre, sous la belle appellation de Charme Noir, on lit les termes de fiction soudaine, qui désignent tes nouvelles. Et donc, comme l'a rappelé Romain, ça ne dépasse pas les 3-4 pages. Mais que recouvre pour toi cette définition de fiction dite soudaine, avec des chutes tout insolites, voire même qui se concluent sur des fins ouvertes?
Je sais pas, je voulais... C'est vraiment... Pour moi, c'est le meilleur format, en fait, en... sur trois pages pour développer vraiment un début, un milieu et une fin, une chute. Pas toujours, des fois j'aime bien même finir même pas ouvert, sur une, je sais pas, même pas quelque chose d'absurde. Et je voulais jouer avec ça pour je suis assez bavard quand j'écris, donc là c'était un peu pour me forcer à écrire plus court quand même. Par contre, je pourrais pas faire une nouvelle d'une page, une page et demie, je pourrais pas. Comme il faut que je mette un peu de mots quand même, sinon je me suis pas vraiment dans mon élément.
D'accord, et comme l'a constaté Romain qui a lu Charme Noir, revient le nom d'une ville assez souvent, donc à certaines pages, 16, 27, 80, 107, etc., écho l'insolite. Et dans l'esprit du lecteur, ça peut se révéler être le cadre général de tes 50 fictions, et c'est aussi l'anagramme d'Hôtel Silencieux. La petite malice de Benoît Patrice.
Petite référence. Je me suis quand même beaucoup éloigné de Tel Silencio parce que j'aime pas rebondir un peu sur ce que j'ai écrit avant, mais je me suis dit, bon, quand même, pour que ça soit une petite ADN, un peu, dans Charme Noir.
Et d'ailleurs, on ne retrouve pas l'hôtel comme lieu d'une de tes fictions, donc dans Charme Noir, mais énormément de lieux différents, comme un salon de coiffure, un aéroport, un centre de thalassothérapie, une salle de réunion, un habitacle de voiture. Et d'où t'es venue vraiment cette profusion de lieux pour servir de cadre à tes nouvelles?
Ben, il faut, en fait, quand. À l'origine, pour écrire Charme Noir, je me suis dit, je vais écrire 200 nouvelles et je garderai les 100 meilleures. Mais bon, en fin de compte, j'en ai écrit 100 et j'en ai gardé 50, c'est déjà pas mal. Parce que, après, pour la santé mentale et physique, c'est pas évident. Mais donc, plus on écrit de nouvelles et plus il faut des cadres. Mais il y a aussi beaucoup de textes qui se passent dans l'appartement même du narrateur. Donc, c'est vrai que dans l'appartement, il se passe aussi des choses un peu bizarres. D'ailleurs, beaucoup de. C'est un sacré vestiaire. Mais donc, oui, j'ai pris un peu ce qui. En fait, je prends aussi un peu les éléments qui me passent par la tête. Hein. Donc, voilà, le salon de coiffure, ça me faisait rire de. Enfin, j'en dis pas plus, mais d'avoir un coiffeur un peu spécial. Voilà, je développe, en fait, c'est un peu... Dans le fantastique, c'est toujours un peu ça. Il y a, on part d'un univers très quotidien et il y a une bascule. Ça, c'est vraiment, c'est ça, le fantastique. Donc, d'un univers très, très simple, moi, ça me fait mon bonheur pour ensuite développer des choses bizarres.
Et en quoi, justement, les créatures et personnages, autres que le narrateur, décrits dans Charme Noir, modifient la perception de ces lieux et espaces normaux pour la plupart, sachant que, je vais prendre un exemple, tu as la fiction Une famille, où une certaine demeure renferme une drôle de maisonnée. Et ça transforme, je trouve, le lieu.
Oui, alors, ça, En fait, parce que je vais revenir sur Charme Noir. En fait, c'est un objet, j'ai un peu dévoilé quelque chose, mais c'est un peu un objet qui est en orbite autour de la Terre. Et c'est ça qui altère la réalité, en fait. Donc, en fait, on voit le Charme Noir, mais qui n'est pas cité, mais il y a des références un peu cachées. On voit qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans le ciel.
D'accord.
Et c'est cet objet spécial qui produit des événements un peu spéciaux. À l'origine, d'ailleurs, je voulais vraiment mettre le Charme Noir, cliquer, mais en fin de compte, je trouvais que c'était plus rigolo de laisser un peu le lecteur se faire son opinion.
Comme dans Hôtel Silencio, il y a une certaine pièce cachée, t'aimes bien aussi jouer avec ton lecteur.
Oui, ça j'ai bien aimé. Bon, c'est un peu aussi. Enfin, en fait, ça, j'ai pris ça plutôt pour comme les pistes cachées des albums de musique.
Ah oui.
Donc je me suis dit, ça serait rigolo de faire ça un peu sur un bouquin comme ça.
Et ce qui fait un peu la singularité de Charme Noir, c'est l'emploi du « je » comme pronom. Et pour toi, plutôt que d'employer le « il », qu'est-ce que ça apporte en plus au charme de tes fictions d'employer le « je »
ouais.
Ça implique davantage le lecteur.
Ben oui, en fait, déjà, je suis toujours plus à l'aise à la première personne, du singulier. Pas toujours, hein, je peux écrire aussi à la troisième, mais là, mais comme si... Ouais, je sais pas, parce que le narrateur reste un peu moi, quand même. Pas entièrement, parce que bon, il arrive quand même des bricoles, et puis il est un peu spécial. Mais je me sentais plus à l'aise, en fait, voilà. Pour ces nouvelles, en écrivant à la première personne, ça me permettait de plus imaginer, de mieux me mettre à la place, en fait, de ce qui arrivait au narrateur.
D'accord. Et là, on va passer à un de tes choix musicaux, donc, qui fait écho, d'ailleurs, à une de tes fictions, La Brigade des Maléfices. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
Ben oui, ça c'est rigolo parce que je pense que si je rentrais chez moi, j'avais quasiment fini Charme Noir et je tombe sur cette chanson. Alors, peut-être c'est sur Radio G d'ailleurs, je sais pas. Et donc je me dis, mais c'est exactement, quasiment exactement ce que je suis en train d'écrire, ce que j'ai fini d'écrire. Donc j'ai tilté, puis là je me suis dit, un choix musical, c'est vraiment le top, comme ça permettra un peu aux éditeurs de se faire une idée de ce qu'est Charme Noir aussi.
Et La Brigade des Maléfices, c'était une série télé française fantastique, hein, de 1971, qui est un peu l'ancêtre d'X-Files. On a deux inspecteurs de police, je crois, qui enquêtent sur des phénomènes paranormaux, on va dire avec un relativement convaincu du paranormal et l'autre qui est un sceptique. Et on peut retrouver ça sur le site de l'INA. Enfin, il y a eu 6 épisodes, en fait, je crois.
Il y a que 6, oui. Oui, c'est à l'époque.
Et les deux premiers, vous pouvez les voir gratos sur la page YouTube de l'INA, par exemple. Voilà. Et donc, on s'écoute l'épée. Alors, ils avaient été programmés aussi parce qu'ils étaient venus faire la tête d'affiche du festival Lévitation. Du coup, c'était il y a 2 ans, je crois. C'était un peu l'exclu, il me semble. C'était un de leurs premiers concerts. Parce que l'épée, en fait, c'est... Demande des Liminanias, je sais pas si
Luminanias.
Je prononce bien.
Ouais. Enfin, de Luminanias.
Avec comme chanteuse Emmanuel ou Mathilde,
ouais, c'est signé, oui,
Mathilde.
Ouais.
Mathilde, la femme de Polonski. Et puis il y a aussi le mec de Brian Johnstown, le massacre Anton.
Brian Johnstown,
oui, voilà. Allez, on s'écoute ça tout de suite sur le 100.5, La Brigade des Maléfices par l'épée.
Thank you.
101.5 Imaginaire avec Benoît qui vient de nous parler de Charme Noir.
Et là, on a entendu la Brigade des Maléfices qui est citée, donc page 39 de la, dans la fiction Emprise. Alors là, je vais un peu plus parler de certaines des fictions qui m'ont plu. Il y a Gestation Nocturne et Homonculus. Donc ça se passe dans un appartement. Et le héros à mes yeux, Benoît, semble être le même, voyant des pièces de son appartement chambardées par des monstres qui pourraient avoir le rôle de familiers bizarrement surgis. Alors tandis que la fiction Emprise, on a la Brigade des Maléfices, elle ferait le bon point de départ d'un seul et même bouquin avec son observateur bipède venu du futur, nous espionner, capturé par des agents paranormaux. Alors tant de sujets d'histoire frappants, Benoît, là bon, je peux pas tout détailler, mais ça te donne pas envie justement d'en développer en roman par la suite pour vraiment les exploiter encore plus?
Oui, je vais y mettre parce qu'en fait, mon premier roman, Hôtel Cinesio, c'est un roman. Et c'est vrai que c'est plutôt une... J'ai regroupé plusieurs nouvelles, mais comme il y a des renvois que, que toutes les chambres sont liées, en fin de compte, il y a un début, un milieu, une fin, donc techniquement c'est un roman. Mais bon, c'est un peu de la triche quand même. Donc il va falloir que je m'y mette, hein, mais j'ai peur. J'ai peur parce que j'en ai écrit plusieurs, trois ou quatre, mais qui n'étaient pas bons, que je n'ai pas osé montrer. Donc là, il faut que je m'y mette et que, voilà, que, maintenant que je passe un peu au-dessus de la nouvelle. Là, j'ai fait de la nouvelle longue, de la nouvelle courte. Donc maintenant, bah, je vais faire du roman, puis au moins comme ça, je vais pouvoir être un peu plus bavard. Et puis, voilà. Mais bon, il y a roman, c'est un mot quand même. Il y a des grands romanciers. Donc j'ai resté dans un style quand même plutôt dans la littérature de genre, je pense. Je vais rester dans le fantastique. Hein, voilà.
Il y a des grands romanciers du fantastique. Hein,
oui, c'est vrai. Oui. Et c'est parce que moi, j'arrive plus de la littérature blanche.
Ouais, en fait. Il y a aussi de mauvais romanciers dans la littérature blanche. Bon.
Oui.
Alors il y a des fictions qui m'ont particulièrement touché. Je sais que Romain c'est Circus Extraneus, et moi c'est
préféré. Ouais.
Ouais, moi c'est H de Homme qui dépeint le triste quotidien d'un commercial de boîte. J'ai adoré la fin en fait. C'est comme une mise en abîme sur ce qu'il voit, sur ce qu'il n'aime pas voir en fait de lui-même en pleurs. Autrement dans Relations inconnues. Le narrateur fait fuir contre son gré une troublante créature de la nuit aux yeux gris inexpressifs. On pourrait même se passer Creature of an Act de Kiss en 82. Mais tout ne finit donc horriblement donc, pour là, ces narrateurs. Mais quel message, globalement, veux-tu traduire dans les chutes de tes fictions?
Ouais, le but principal, c'est déjà souvent de surprendre, en fait, tout simplement. Mmh. Ou même là, c'est pour le début, tu parlais de la première, je me souviens plus.
H2Homme.
Oui, voilà, H2Homme. Ça me faisait rire de voir quelqu'un qui se met à pleurer sans raison au milieu en pleine réunion. Ça veut dire que c'est très triste, mais j'utilise l'image, c'est frappant et en même temps un peu drôle, étonnant. Donc là, je suis parti. Soit je pars d'une base un peu spéciale, soit je travaille la fin en fait. Et je cherche pas à ce que ce soit obligatoirement glauque ou spécial, je veux juste que ça soit que ça surprenne. Pour c'est un peu la base.
Insolite.
Oui.
Et Romain, tu auras des questions?
Ouais, je me demandais au niveau éditorial comment ça s'est passé avec l'éditeur. Et tu dis que tu as écrit 100 nouvelles et on en a 50 à l'arrivée.
Oui,
est-ce que c'est toi qui as fait le tri tout seul ou est-ce que ton éditeur a aussi...
Oui, j'ai fait, c'est surtout moi qui ai fait le tri. Hein. En fait, quand on écrit des nouvelles de 3 pages, c'est pas... Si on loupe une nouvelle, c'est pas grave, on la met à la poubelle, on commence une autre, on la loupe. Au bout d'un moment, là, je crois que c'est Rebel Brick qui disait que pour commencer à bien écrire, en fait, il faut écrire une nouvelle par semaine. Au bout d'un an, on a 50 nouvelles. Dans les 50 nouvelles, il y en aura forcément des bonnes. Ça veut dire aussi implicitement qu'il y en aura dans l'eau, il y en a des mauvaises. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai écrit son nouvelle. Mon éditeur m'a forcé à en garder quelques-unes. Parce que moi, j'en aurais gardé que 40, même, je pense, pour vraiment encore plus concentrer. Mais ça aurait fait un petit peu moins de pages, donc on s'est un peu battus ensemble. Et puis voilà, c'est toujours un peu comme ça avec un éditeur. Hein.
Et l'ordre des nouvelles, comment
alors,
ça s'est fait?
Ça, c'était très dur. La première nouvelle et la dernière. Voilà, ça je savais. En plus, la première nouvelle s'appelle Deus Ex Machina. Donc je trouvais ça assez rigolo de commencer par Deus Ex Machina alors que c'est plutôt vers la fin. Et la dernière nouvelle, parce que c'est une nouvelle un peu plus ouverte, encore un peu plus humoristique que les autres. Donc là, je me suis dit, ça ouvre un peu sur ce que je vais faire par la suite. Mais le reste, j'ai pris des post-it, 50 post-it, et j'ai mis ça sur la table, et puis j'ai mis ça là. Et voilà, tout en faisant attention qu'il n'y ait pas de Reddit sur certaines nouvelles. Enfin, c'est un casse-tête, ça m'a pris plusieurs jours, et ça, j'ai pas apprécié. J'ai pas apprécié trop, quand même.
Ok. Une question, tu as une très belle couverture aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Alors oui, la couverture un peu mystérieuse, donc elle est faite par Christiania.
Mystérieuse Christiania aussi.
Oui, voilà. Voilà, donc je sais pas, je crois qu'elle n'est même pas sur les réseaux sociaux. J'ai regardé, mais pas plus, hein, je ne suis pas non plus un stalker. Et donc je préfère en fait ne pas savoir.
Moi, ça me fait penser un peu à un tatouage, hein, mais c'est peut-être une bêtise. Hein. Il y a sur une tête de mort au milieu, mais il y a plein de choses autour, un papillon, des cornes, ça des personnages.
Oui, ça fait un peu. En plus, ça joue quand même assez beau.
Ouais.
C'est
un petit côté très romantique.
Oh, oui, voilà, ça c'est bien un peu, oui.
Et donc, je voulais savoir aussi un petit peu ton retour très rapide sur des fictions interactives, qu'on pourrait qualifier de fictions soudaines, sur le site quefaitesvous.com. En fait, des mini-livres-jeux comportementaux. Et qu'est-ce que t'en tires, toi, comme expérience de lecture, toi-même qui as été l'auteur d'un livre-jeu Hôtel Silencieux?
Je me suis assez amusé. En fait, j'en ai fait deux. Donc, je crois qu'il y avait une nuit dans les montagnes et l'autre, c'est une bonne soirée. Donc elles sont toutes un peu toutes différentes. Donc une nuit dans les montagnes, c'est une jeune femme perdue dans la montagne qui doit se débrouiller. L'autre, c'est un homme qui est un peu aux prises avec une jeune femme très entreprenante avec lui alors que l'homme est marié. Donc j'ai fait les deux nouvelles, les deux mes aventures deux fois. La première fois d'une manière très sérieuse. Donc je me suis très bien comporté avec la voilà. Donc, alors c'est assez drôle parce qu'en fait on a quand même la satisfaction à la fin de parce qu'on est noté à la fin.
Oui.
J'étais très bien noté, intelligence, prudence. Et j'ai recommencé les deux nouvelles en faisant rock'n'roll, n'importe quoi, en comportant comme un salaud, ou faisant n'importe. Donc alors là, par contre, alors stupidité, score, j'étais en stupidité à 22.
Il y a tout ça.
Oui, ça, en plus, c'est ça qui est drôle. Et alors par contre, c'est beaucoup plus jouissif de faire n'importe quoi. Oui. Donc je conseille à tout le monde, c'est vraiment de bonnes petites expériences.
Un peu le charme noir aussi qui peut parfois nous amener à faire des choix un peu imprudents.
Oui, c'est un peu ça.
Et pour conclure, je vois que tu es très fidèle à l'abat-jour depuis 2012, la première nouvelle, la machine à laver les gens. Et également, il y a Imaginaire qui occupe comme une place importante pour toi.
Maintenant, ça commence quand même un peu. Enfin, j'espère. Oui, je les regarde pas trop.
Mais venir à Imaginaire prochainement, toi, par hasard.
Et qu'est-ce que tu attends, toi, de ta venue au prochain salon, tu as été au Grenier Saint-Jean, là au salon Kurnonski, tu avais été déprogrammé malheureusement suite au Covid.
Tout premier salon d'ailleurs.
Et vraiment pour toi, Imaginaire, le public, comment tu définis tout ça comme expérience?
Déjà, il y a une super bonne ambiance, hein, malgré ce qu'on laisse croire ce soir. Donc, on est super bien reçus, il y a les bonnes rencontres des gens.
Je ne sais vraiment pas si tu devrais t'avancer sur ta venue.
Hein. Moi, je vais peut-être changer d'avis aussi, hein, parce que c'est un peu mauvais caractère. Donc, il y a vraiment ça, déjà, toute l'équipe, hein, bien sûr, c'est vrai que c'est un peu lèche-bonne. Et aussi, quand même, les gens qui viennent, parce qu'il y a des. Moi, c'est la première fois que je faisais un salon, et donc c'est super, super agréable de voir des gens qui s'intéressent à votre livre alors qu'ils ne vous connaissent même pas. Donc, vraiment, c'est. Oui, moi, je conseille à tout le monde de venir, c'est vraiment super.
Alors, en plus, par rapport à un nouveau salon rennais, nous, on est une tireuse à bière. Hein, c'est quand même important de
faire. Ah oui.
Ah oui, en plus, c'est vrai.
Aïe, aïe. Bon, Sébastien, on passe à ton deuxième choix musical ou t'as
oui,
encore des choses à ajouter?
Non, bah, c'est
ton premier choix.
C'est mon seul choix musical. Donc, moi, je vous recommande donc de lire Charme Noir,
oui,
qui est un
fait.
Vrai coup de cœur
littéraire. Oui,
exactement. Et donc, là, pour mon choix musical, j'ai choisi une fiction qui pourrait être vraie, chantée par Stromae, La Solacitude, donc sur Radio G.
Et après, on passera à l'interview de Vincent Dionisio sur le 100.5.
Non.
Enchanté, moi c'est Nicolas. Vas-y, viens, on boit un verre. Ou si tu veux, on le fait tout de suite. Vite, puis je te ramène après. Bouge pas, laisse-toi aller. Pour un soir, je serai ton hôte. Qu'est-ce qu'il y a? T'hésites ou quoi? Si c'est pas toi, ce sera une autre. Les plans cul, c'est mon quotidien. Mais difficile de me confier. C'était pas mal, mais on se quitte demain. Faudrait quelqu'un pour me conseiller. Le problème, c'est la routine. Quand les jours se ressemblent, Ce qui me tue, c'est l'ennui. Est-ce qu'on finira ensemble? Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie d'un couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie d'un couple me fait souffrir de lassitude. Mon amour, ça fait 8 ans. C'est pas tous les jours évident. C'est pas par manque de sentiments. On s'aime toujours mais autrement. On dort dans le même lit, mais on s'éloigne petit à petit. L'impression d'être devenu transparent. Et si tu te trouvais un amant? Un resto, un week-end, c'est trop fatigant. Si on reste ici tout le week-end, est-ce que tu me trouveras encore attirant? Le problème c'est la routine, quand les jours se ressemblent. Ce qui me tue, c'est l'ennui. Est-ce qu'on finira ensemble? Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude.
De lassitude.
Le célibat me fait souffrir de solitude.
De solitude.
La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Depuis qu'elle est plus là, j'ai l'impression d'être bête. J'ai la tête ailleurs, je sais même plus si ça va. Je regrette même nos prises de tête. J'avoue que je fais que me plaindre. Et ça depuis qu'elle est plus là. Faudrait peut-être que j'arrête. Au fait, moi c'est Nicolas. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie d'un couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude.
Stromae est donc dans Imaginaire sur le 101.5 qui on passe à l'interview de Vincent Dionisio.
Stromae n'était pas là, je préfère être là. Du coup, ça pouvait induire en erreur.
Karine, on commence par toi. C'est toi qui as vu Cube.
Et là, on sent le stress dans cette pièce parce qu'on ne le voit pas à la radio. Mais Vincent est quand même quelqu'un d'hyper impressionnant.
Bien sûr. Non, je suis allé à la salle, je fais du crossfit et tout.
C'est quoi du crossfit?
C'est une pratique sportive hyper intense.
Ah ouais.
Ça n'a rien à voir avec les romans, moi, c'est tout ce que j'ai à dire.
A priori, non. Ouais.
On me posera quand même des questions sur ton équilibre alimentaire et ton régime pour savoir.
Sure, bah, tu sais, j'ai un petit 7 mois, donc le régime alimentaire est passé par là, peut-être.
Alors, pour commencer, j'aimerais bien déjà dire que j'ai beaucoup apprécié ton roman. Vraiment,
c'est gentil.
Il est très, très. Il est très intéressant en fait, et j'ai l'impression que tu as eu un message surtout au niveau critique en fait du pouvoir et de la société à travers notamment je me rappelle plus, c'est un comité de propagande ou
collège de la propagande.
Voilà. Exactement. Et ça m'a fait penser à 1984. Est-ce que il t'a inspiré ou pas du tout?
Attends, déjà laisse-moi savourer 2 secondes. Alors 1984, bah ça m'a inspiré, oui. C'est-à-dire que je l'ai lu assez jeune. Après, la littérature dystopique d'une manière générale, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Mon premier roman édité, c'est Ménélara, c'est une dystopie. Là, ça va toucher à peu près les mêmes, enfin des thématiques assez proches dans le sens où on a un pouvoir abusif et un contre-pouvoir abusif également. Et du coup, le héros les héros doivent se retrouver au milieu. Donc ouais, effectivement, l'idée c'était d'essayer d'étudier cette question de la troisième voie en fait, et que quelqu'un qui se pose en contre-pouvoir d'un pouvoir abusif n'est pas nécessairement lui-même légitime ou bienveillant quoi.
Oui. Tout à fait.
Vincent, t'es bon pour une table ronde au prochain Angers Geek Fest. Hein.
On a pas la place, on n'a pas les sous.
Dont le thème sera utopie, dystopie, hein, si je me rappelle bien.
Ah oui,
bien.
C'est vrai, exact.
Ouais. Bon, c'est en avril prochain, on a le temps d'y réfléchir.
Oui.
Et justement, je me demandais également qu'est-ce qui t'avait inspiré au niveau de la création de tes personnages.
C'est une bonne question. Alors, au départ, j'avais. Le tout point de départ, c'était une discussion que j'avais avec quelqu'un où on parlait de monarchie dans l'espace et ça me faisait marrer. Et du coup, j'ai un peu tiré la pelote et le personnage, alors c'est difficile sans trop spoiler, le personnage de Q, c'est une allégorie. Son nom d'ailleurs est une allégorie. Et en plus du personnage de Kyuk et de cette idée de lutte sociale au sein d'une micro-société comme ça, je voulais rajouter d'autres types de luttes, notamment adresser la question des communautés LGBT. Et montrer aussi la question de la reproduction sociale. Donc j'ai fait un gros mix check de tout ça. J'essaye dans mes bouquins, dans la majorité de mes bouquins, de parler pas mal de questions sociales. Là, j'ai essayé de le faire peut-être un peu plus subtilement que précédemment, mais ça reste quand même pas mal in your face. Et donc, pour revenir à ta question, puisque je digresse, les personnages, c'est difficile à dire. La reine Gikochina, c'est clairement une inspiration monarchique de droit divin du XVIIIe siècle, quoi. Et puis les autres, je t'avoue, je sais pas trop. En fait, s'ils viennent un peu comme ça, c'est difficile de dire comment ils sont venus. Ils se sont construits un peu au fil de l'écriture aussi.
Et j'ai l'impression aussi que t'as voulu mettre une touche de fantaisie à travers les noms des personnages, parce qu'ils sont très compliqués à retenir et à dire.
En fait, les personnages, d'une manière générale, quand j'essaye d'en faire des symboles, comme c'est le cas de Q, que je trouve des traductions dans des langues étrangères du mot. Et Kyuk, par exemple, ça a une signification en vietnamien. Et ça donne une indication sur ce qu'elle représente dans l'histoire. Et du coup, j'ai essayé de travailler comme ça. Maintenant, pour les personnages de la cour, notamment, où j'avais vraiment besoin de perso, mais dont j'allais parler deux fois, je me suis pas fait chier. En fait, j'ai fait des contractions de nom de joueurs de basket.
D'accord.
C'est pas vrai.
Si, je te jure.
Ah, mais pour avoir l'idée, justement.
Bah, je sais pas, à ce moment-là, je devais regarder un match, un truc comme ça, et du coup, ça m'est venu comme ça, j'avais pas envie de me faire chier.
Et ben, justement, ça tombe bien, je voulais aussi te parler de ton
basket.
Travail. Non. De ton travail d'écriture. Est-ce que t'as une routine particulière pour écrire ce roman-là ou même tes précédents romans?
Parce que j'adore cette opposition entre routine d'écriture qui fait mec hyper sérieux et en fait jeune père avec un gamin qui doit t'empêcher de faire tout ce que tu veux.
Alors pour le coup, j'ai quand même les matchs de basket.
Oui, alors quand j'ai écrit Kyuk, j'avais pas d'enfant encore. D'ailleurs, Kyuk, j'ai commencé à l'écrire. La première phrase de Kyuk, je l'ai postée sur les réseaux sociaux. J'étais dans un club vacances en Tunisie. Alors en all inclusive et je devais être à ma cinquième pinte. Et il était 15h, un truc comme ça. J'étais bien pété et j'ai écrit la première phrase de Kyuk. Et je crois que c'est la seule phrase que j'ai écrite en 15 jours. Et après pour ma routine principalement, c'est un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que j'écris quand j'ai du temps libre, quand je suis au taf et que j'ai une pause, j'écris soit sur mon ordinateur soit sur mon téléphone et je note des trucs, et puis après quand j'ai du temps je reformalise un petit peu tout ça. Par contre, j'écris assez vite, c'est-à-dire que quand j'ai mon idée, que j'ai mon chapitrage, puisque je suis plutôt architecte pour reprendre l'allégorie, ça va assez vite, quoi. C'est-à-dire que Kyuk, une fois que j'avais vraiment conceptualisé le truc, en 4-5 mois c'était fini.
D'accord.
Et on en parlera tout à l'heure, la citrouille, c'était encore plus rapide.
Très bien. Eh bien, moi, j'ai fait le tour de mes questions, finalement, parce que tu as répondu à la dernière.
C'était laquelle, la dernière?
Justement, le temps d'écriture.
Ouais. Bon, après, dans le temps d'écriture, il y a quand même le temps de conception qui est pas négligeable. Mais encore une fois, chaque auteur est différent et il y a des auteurs qui vont se lancer et qui vont retravailler le truc, etc. Moi, j'ai plutôt tendance à concevoir en amont, à blaster comme un malade et puis à la fin à passer beaucoup beaucoup de temps en réécriture.
Et tu t'inspires aussi de ta vie quotidienne ou pas du tout?
Ah bah oui, enfin là toutes les problématiques sociales abordées dans Kyuk, c'est des choses qui me touchent au quotidien et que j'ai envie d'adresser. Maintenant, voilà, on en parlera juste après, c'est pas forcément le cas de tous mes bouquins non plus, même s'il y en a toujours un petit peu. Mais voilà, c'est des bouquins qui sont résolument politiques, qui sont assumés pour être politiques. Et donc, qui s'inspirent évidemment de mes indignations quotidiennes, quoi.
Très bien.
Putain, qu'est-ce que je suis sérieux.
Je rebondis sur la question parce que je voulais l'aborder un petit peu, mais ce que je voudrais savoir, c'est te connaissant les discussions que tu peux avoir dans des salons, surtout entouré de gens appartenant à la même maison d'édition que toi, combien de tes idées sont venues en étant sérieux, combien de tes idées te sont venues en étant bourré?
Alors, tu parles de quel des deux bouquins, là?
Tous. Dans tout ce que tu as écrit, quelle est la proportion bourré, quelle est la proportion sobre?
Écoute, ce week-end, à West-Hurlant, j'ai discuté avec une collègue de la maison d'édition, avec deux collègues de la maison d'édition qui s'appellent Julia Weber et Camille Salomon. Et on discutait de ce qu'on notait, soit qu'on était bourré, soit qu'on dormait la nuit sur nos téléphones. Et on se réveille le matin, on dit qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, il y en a une que j'ai gardée, que j'avais notée. Bouge pas, je te la retrouve.
Et Julia Weber, elle aussi dans notre nouvelle anthologie.
Oui, tout à fait. En fait, absolument, je ne sais pas ce que vous avez fait, les gars.
Notre anthologie, c'est une banderole d'inception, on va se faire payer.
J'avais noté la tranquille paix de l'enfant qui va au collège et qui ne pense à rien. Je me suis réveillé le matin, je ne savais pas du tout à quoi ça correspondait. J'en sais rien. Je l'ai gardé comme souvenir de. Il faut vraiment que j'arrête de noter des trucs quand je. Alors la question, je sais plus par contre si je dormais après une cuite ou pas. Mais bah après, du coup, moi, je suis vachement impressionné par ce que tu fais. Benoît, parce que t'as écrit 50 nouvelles, ça veut dire que t'as eu 50 idées. T'as écrit 100 nouvelles, t'as eu 100 idées.
Dont 50 bonnes.
Dont 50 bonnes.
Oui, voilà, oui, mais c'est ça qui est. Voilà, c'est dur, donc faut arrêter un moment.
Putain, moi, j'ai pas 100 idées dans ma vie, quoi. C'est délirant.
Merci.
Non, mais Benoît boit beaucoup plus que toi.
Ah, bah ok, d'accord, je comprends.
Non, je pense que c'est à peu près pareil, on est kiff-kiff. Hein. On croit qu'on allait boire un coin ensemble.
Mais à chaque fois qu'il boit une pinte, il écrit une nouvelle.
On va faire un concours à imaginaire, style Biapong, et puis après, on va faire
un atelier d'écriture.
On va faire un des jours.
Putain, un brainstorming entre. Mais sérieusement, il y a des trucs incroyables qui pourraient ressortir de là. T'as ton anthologie 2023, tu l'as, quoi. Ouais, en micro-nouvelle.
Cadavre écrit, ça va être parfait.
Très bien. Bon, notre anthologie d'ailleurs, Fond Terroir, hein, qui sera disponible donc au Salon Imaginaire.
En avant-première, tout à fait, 14 et 15 mai prochain, dans 2 semaines, 10 jours.
Vincent, ton choix musical, Bowie, Life on Mars.
Alors, je te coupe la parole, mais il faut savoir que ce n'était jamais, que le choix sage, comme il est musical.
En fait, alors j'ai choisi Life on Mars parce que le bouquin dont on va parler là se passe sur Mars. Et que, accessoirement, c'est une chanson absolument brillante. Mmh. Et le deuxième choix, c'était I Just Had Sex de Lonely Island. Alors, Lonely Island, c'est un groupe de rap humoristique mené par Andy Samberg, qui est assez connu parce que c'est l'acteur principal de la série Brooklyn Nine-Nine. Mmh. Et I Just Had Sex, c'est l'histoire de trois puceaux qui viennent d'avoir leur première expérience sexuelle et qui le crient sur tous les toits. Et c'était pathétique. Et c'est une chanson que j'ai, enfin, c'est un groupe que j'ai beaucoup écouté quand j'ai écrit Requiem pour une citrouille parce que c'était pendant le confinement, parce que j'avais besoin de rire. Et c'est un groupe absolument génial. Et ça permet de montrer aussi que ce soit de la musique ou de la littérature, l'art humoristique, il fait du bien aussi.
Ok.
Voilà, mais c'est pas du tout ça que vous allez écouter.
Ah non. On écoute Bowie. God awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no. And her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream. To the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore. For she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. America's tortured brow, that Mickey Mouse has grown up a cow. And now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog, clowns. But the film is a saddening bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again as I ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. ben, on est sur Mars, alors, si je comprends bien, dans l'imaginaire, sur le 101.5.
Alors oui.
La qualité de tes transitions ce soir, Romain,
c'est... Ouais, ben, c'est un métier.
Entraînement, ouais, c'est un métier, et putain, la dizaine d'années d'expérience. Mais avant de commencer, j'ai un préambule à formuler. Vincent, j'appréhende cette discussion entre toi et moi. Parce que tu t'es aventuré dans un genre, d'abord, que je n'ai pas l'habitude de lire. Et puis que je sens bien que tu n'as pas l'habitude d'écrire. Et je trouve que la fusion de ces deux moments-là sont quand même assez intenses.
Tu sens bien que j'ai pas l'habitude de l'écrire, ça commence mal.
Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand j'ai pris le bouquin. D'abord, il est orange et j'ai du mal avec le orange. Et ensuite, sur le quatrième de couverture, la dernière phrase m'a vraiment touché en plein cœur ou en plein front. J'avais du mal à la comprendre, puisque... Ton bouquin se résume sur « La plus incompétente détective privée de Mars se charge de la plus importante affaire de Mars ».
Yep.
On est d'accord là-dessus. Mm-hmm. Cette affaire, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Alors, nous sommes sur Mars, donc dans un siècle environ, et une partie, toute petite partie de Mars a été colonisée. Ce qui est un peu d'ailleurs... comment dire, ce qui a été écrit avant que les guignols s'amusent à se balancer dans l'espace, là, les milliardaires, là, faire le concours de celui qui ira plus loin dans l'espace, Elon Musk, etc. Et donc là, bah, ces mecs-là, cette caste-là, ils ont colonisé une partie de Mars, ils sont à peu près 1 million là-haut, et en fait, vivent sur place que les méga riches, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens de se payer le billet. Et parmi ces méga riches, le plus riche d'entre les riches, celui qui possède l'entreprise, justement, qui permet de faire les allers-retours, hein, jusque là-haut, est retrouvé assassiné. Et aucun. Alors la police se bâcle l'affaire évidemment, et aucun des détectives privés sur place ne veut avoir quoi que ce soit à faire avec cette affaire, parce qu'ils se disent, si ça commence à toucher une autre affaire, moi je perds mon business, etc. Donc le meilleur détective passe, le deuxième meilleur détective passe, le troisième meilleur détective passe, et on arrive tout en bas de l'échelle avec la dernière, la plus naze, Sam Neff, qui elle, bah, a pas tellement de choix que d'accepter, parce qu'en plus il y a un petit coup d'orgueil qui se joue derrière.
Alors d'abord, je t'interromps et je me dis que quand tu l'as raconté, c'est effectivement ce qui est marqué sur le quatrième de couverture, mais c'est pas tout à fait exact.
C'est parce
que tu dis qu'il n'y a que les plus riches qui habitent sur Mars. Or, oui. Sam Neff n'est pas du tout riche, et d'ailleurs c'est pas la seule à ne pas du tout être riche, mais à y vivre. En fait, il y a une troisième caste, puisqu'il y a les plus riches qui y vont, il y a des ouvriers qui sont là pour la maintenance, tout ça, dont les trajets sont payés par les plus riches, et puis il y a des pecnos qui ont eu un rêve, qui y sont allés et qui en fait ne servent à rien sinon à remplir le quota, quoi. En gros, c'est ça.
C'est ça, sauf que les pecnos et les ouvriers, comme tu dis, ils sont là temporairement, ouais, par définition.
Et Sam Neff. Alors Sam Neff, est-ce qu'il y a un jeu de mots sur ça? Parce que l'ensemble du bouquin est un jeu de mots.
Ouais, on peut dire ça.
Sam Neff, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors Sam Neff, c'est une référence au film noir des années 50. 40-50, puisque c'est un bouquin, comme tu l'as dit, qui est un hardboil, qui s'inspire délibérément de tous ces films-là. Et donc Sam pour Sam Spade, qui est le nom du héros du Faucon Maltais, et Neff pour Walter Neff, qui est le nom du héros de Assurance sur la mort, qui sont deux films noirs absolument brillants des années 40-50.
On retrouve d'ailleurs cette image-là sur ta couverture, où on voit notre détective féminine, parce que féministe quand même comme bouquin, mais une femme avec le feutre sur la tête, la clope, la bouteille, et puis l'air vraiment au bout de sa vie quand même. Requiem pour une citrouille. Une citrouille, qu'est-ce que c'est pour
toi ? J'explique.
Okay. Ouais, parce que on y va très vite. Dans les 5 premiers chapitres, on sait la citrouille. Mais ouais, pourquoi ?
Alors, ça part du principe de connaître l'expression une grosse légume. Ce que c'est qu'une grosse légume ? Alors, une grosse légume, puisque je pose souvent la question et du coup, je réalise qu'en fait, on n'est pas beaucoup à connaître le sens de l'expression. Une grosse légume, c'est quelqu'un de très important et qui se sait très important et qui se comporte comme tel. Et du coup, sur Mars, on n'a que des grosses légumes. Sauf que dans ces grosses légumes, il y a des légumes plus grosses que les autres. Du coup, on a une espèce de hiérarchie socio-légumière qui s'installe. Plus le légume est gros, plus on est important. La citrouille est donc le plus gros des légumes, j'ai vérifié. C'est le plus gros des légumes. Et donc, le plus gros des légumes, c'est Walter One Walsh, c'est celui qui se fait assassiner au début. Et donc, Requiem pour une citrouille, Requiem pour la personne la plus riche de Mars. À titre pour précision, Sam Neff est un petit pois.
Oui,
un tout petit légume.
Et effectivement, puisque on le sent bien dans le bouquin, tu as fait le plus de recherches scientifiques possibles et documentaires possibles qui ne servent pas à grand chose, puisque il y a énormément de notes de bas de page.
Oui.
On a une petite pensée à cet auteur mythique qui fait dans le burlesque. Est-ce que c'est une de tes références ?
Ah bah oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a il y a une quinzaine d'années à peu près, il y a une personne que je ne citerai pas, mais qui de mon entourage qui est assez casse-couille, qui m'a commencé à me forcer avec Terry Pratchett. Et ça me saoulait qu'on me force et j'avais pas envie. Et du coup, par réflexe un peu immature, je me suis dit, Terry Pratchett, fuck, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Et je pensais que c'était de la SF toute conne, quoi. Et il y a 4-5 ans, un type qui s'appelle
un autre mec de mon entourage qui m'emmerde, qui s'appelle Pierre-Marie Soncarieux, m'a prêté un bouquin de Terry Pratchett qui s'appelait, alors c'est le premier, c'est Timbré, le premier, de Moët van Ipswijk. Et je l'ai lu et c'était une putain de révélation. C'est-à-dire que j'ai lu le truc et je me dis, on a le droit de faire ça. On a le droit d'écrire des conneries. Parce qu'en fait, juste avant, j'avais lu Good Omens, qu'il avait coécrit avec Neil Gaiman. Et c'est vrai que c'est difficile quand on a lu aucun des deux auteurs de savoir lequel des deux est vraiment couillon et lequel des deux est un peu sérieux. Bon, en fait, après, on découvre assez vite qu'en fait, Neil Gaiman, c'est pas forcément un méga rigolo et que Terry Pratchett, c'est pas un méga sérieux. Et Terry Pratchett, ça a été un déclic. Vraiment.
On y retrouve d'ailleurs beaucoup de ces petits traits, à savoir qu'au final, les personnages ne sont tous que des allégories et que ce qui est important, c'est les interactions sociales. Tu en parles beaucoup de ces interactions sociales où les gens sont foncièrement débiles, mais ils n'ont pas envie d'être plus. Et là, je pense au frère de Sam. Est-ce que tu peux en parler? De loin, le personnage le plus important du bouquin.
Oui. Le frère de Sam, il souffre d'un gros manque de reconnaissance sociale, en fait. C'est-à-dire que c'est un type qui n'a aucune importance, mais qui voudrait être important. Et du coup, tout ce qu'il a trouvé pour trouver de la valeur et de la reconnaissance, c'est de lire de la philosophie. Mais il lit de la philosophie, on n'y comprend rien, en attendant qu'on l'interroge et qu'on dise « Ah, tu lis de la philo, t'es vachement intéressant, toi. » Et en fait, non, il est chiant, c'est un énorme poseur, en fait. Et du coup, il vient rajouter un petit peu de sel sur la plaie géante qui est la vie de Sam, et c'est un irritant permanent. C'est comme si quelqu'un venait vous taper sur l'épaule en permanence. Genre « Eh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est absolument insupportable, mais il a ses moments. Quand même.
Des moments qui sont plutôt importants. Donc on a notre personnage principal qui est une alcoolique finie et qui n'arrive à rien, puisque le premier chapitre s'ouvre sur une réussite flamboyante en tant que détective privé. Elle n'a pas réussi à choper un chat. Pensez à tous ceux qui pensent que les chats sont les meilleures créatures de la vie. Dans le bouquin, non, clairement pas. Non. Le deuxième personnage, c'est son frère qui est un con fini. Et le troisième personnage, c'est le fils du mort.
Ouais.
C'est qui ce fils du mort? Qu'est-ce qu'il représente?
Richard Von Wolf. On se souvient tous d'Arnaud Lagardère ici ou pas? On l'a déjà tous oublié.
Non, okay. C'est bon.
Arnaud Lagardère, c'est donc le mec, on pense qu'on veut de son père, mais son père, il a bâti un empire. Alors, on peut en parler pendant des heures sur la valeur de son empire et comment il l'a construit, etc. Son fils a tout dilapidé en étant un énorme couillon et qui a hérité du truc sur aucune valeur, simplement sur le fait que c'était son fils. Là, Richard Von Wolf, c'est un type qui a été élevé dans le culte de son père et qui a été élevé dans l'idée, dès sa plus tendre enfance, de récupérer l'entreprise familiale. Sauf qu'au moment où son père y meurt, c'est pas lui l'héritier, c'est la femme. Et la femme, c'est une arriviste d'une trentaine d'années, Antonia. Et le Pritchard, ça le titille. Et en fait, derrière tous ces airs un petit peu importants, tous ces airs, je contrôle, je sais ce que je fais, etc. En fait, c'est un petit garçon frustré, quoi. C'est un petit garçon frustré. Et il montre qu'effectivement, tout puissant qu'il est et tout ultra riche qu'il est, ça reste jamais qu'un petit garçon complexé, quoi.
Et c'est d'ailleurs lui qui va embaucher Sam Ness, puisque personne d'autre ne veut le faire. On le voit assez vite, la personne, et là, merci pour la référence au Cluedo, la personne qui est arrêtée tout de suite, ça reste quand même le domestique avec le chandelier dans la bibliothèque.
Bien sûr.
C'est forcément lui, c'est toujours lui qui fait des conneries. Donc Sam Ness se retrouve commandité pour aller... n'ont pas trouvé le meurtrier du père dans un premier temps.
Mais, vas-y, alors, pour prouver la culpabilité de la belle-mère.
Qui n'a que 4 ans de plus que elle. C'est
que lui, de fils,
excusez-moi.
C'est ça.
Un petit côté à l'idée. Succès.
je crois que ça a été écrit avant. Non, c'est écrit après. Peut-être inconsciemment.
C'est pas nouveau comme histoire. Hein.
Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Non, mais là, c'est pareil. C'est-à-dire que lui, il se part de vertu en mode la police a bâclé son travail, etc. Et en fait, rien du tout. Il veut juste prouver que sa connasse de belle-mère a fait le. J'ai le droit de dire connasse?
Oui, tu as le droit. Après tout ce qu'on a dit,
tu
ne
mets pas un prénom derrière,
c'est bon. Même avec un prénom.
Attends, je trouve une bonne idée. Il veut juste prouver qu'elle a fait le coup, quoi, parce qu'il la déteste, tout simplement. Enfin.
Alors, juste avant, tu faisais en tes premières sorties SF, tu as fait Manelera, qui était un diptyque éminemment psychologique, philosophique, sociologique, en gros une revendication politique.
Oui.
Après, tu as fait Quick. Non, je sais que c'est pas comme ça qu'on le dit, mais Quick. Moi ça m'abuse. C'est Quick.
Quick.
Qui est une allégorie, encore une fois, politique, science-fiction. Et là, tu nous sors une sorte d'ovni, hard-boiler futuro-scientifique, qui démonte tout ce qu'il peut sur notre société actuelle, ouais. Avec le côté immunité, c'est pas notre monde, c'est le futur, à peu près imaginable. Quel est le mot que tu voulais dire? Lorsque tu as écrit ce bouquin, quel est le message que tu voulais passer?
Qu'ils aillent tous bien se faire mettre. C'était un peu ça l'idée, en fait.
D'accord.
C'est à un moment, on atteint un stade où coup, merde, ça devient plus drôle, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui a les possibilités d'augmenter ses employés à un salaire décent et qui préfère s'envoyer dans l'espace et qui littéralement, enfin, je veux dire, Jeff Bezos a littéralement tweeté : qu'est-ce que je peux faire de mon argent ? Bah gros, paye tes employés peut-être pour commencer, tu vois. Donc enfin voilà, là il y avait à la fois une envie de me marrer parce que c'était le confinement, parce que il y avait un peu de tout, etc. Et puis il y avait une envie de me dire mais putain, il y a tellement de problèmes dans le monde qui seraient réglés si les mecs ils s'achetaient une conscience, quoi. Donc voilà, c'était je me suis bien marré à l'écrire, mais derrière il y a quand même une vraie grande colère.
Et ça sera le mot de la fin. Il n'y a rien de plus sérieux que l'humour.
Oh, c'est beau.
Ouais, on va arrêter.
Merci
là,
Vincent.
Parce que c'est les voix du Scénarium dans une minute sur le 101.5. Bah,
ça a été vraiment un plaisir de vous retrouver tous les deux, Benoît et Vincent. Ah oui. Des styles totalement différents, des idées totalement différentes, apparemment une origine à peu près identique. Et on aura le plaisir de vous retrouver dans une dizaine de jours à vos tables, devant vos livres, pour faire des belles dédicaces.
Voilà, très vite. Merci. Donc on rappelle, Salon Imaginaire, 14-15 mai au Salon Kurmonski, c'est gratuit. C'est quoi les horaires? 10h, 19h le samedi, 10h, 18h le dimanche.
Et on annoncera les tables rondes, puisque nous en faisons 5 le samedi, on les annonce dans pas longtemps.